Vous écoutez la série Balado, l'itinérance en temps de pandémie, produite dans le cadre de l'étude sur la réorganisation des services institutionnels et communautaires en itinérance et les besoins des personnes en situation d'itinérance pour faire face à la pandémie de Covid-19. Cette étude est menée par les professeurs Céline Bello, Souane MacDonald, Elisabeth Gressler, Caroline Grimard et Marie-Ève Goyer de l'Université de Montréal, Philippe Benoît Côté de l'Université du Québec à Montréal et Annie Fontaine de l'Université Laval. Cet épisode porte sur la thématique des refuges d'urgence mis sur pied en temps de pandémie. Stéphanie Houde, la coordonnatrice du projet, questionne Guylaine Racine, professionnelle de recherche.
Bonjour Guylaine.
Bonjour Stéphanie.
Merci de prendre du temps aujourd'hui pour venir nous parler des refuges à bas seuil d'admissibilité qui ont vu le jour pendant la pandémie. Dans presque toutes les régions du Québec, il y a des refuges d'urgence qui ont été mis sur pied pendant la pandémie. Ces refuges-là, ils avaient comme philosophie d'avoir le moins de critères possibles pour admettre une personne. Selon les régions, ils pouvaient accueillir entre une dizaine et une quarantaine de personnes. Puis même comme à Montréal, dans les grands refuges comme Place du Puy, ben c'était plusieurs centaines de personnes. Est-ce que tu pourrais présenter brièvement le contexte de la mise en place de ces refuges?
Si on se reporte à la mi-mars 2020, on se souvient que le gouvernement annonce que tout ferme. Les écoles ferment, l'économie ferme, il faut rester chez soi. Seuls les services et les commerces essentiels peuvent rester ouverts. Bref, quand un gouvernement ferme tout, c'est assez normal de penser qu'on a affaire à un virus très dangereux. D'autant plus qu'à la télé, à l'époque, on voyait passer en boucle les images de ce qui se passait dans les hôpitaux en Italie. Rien de très, très rassurant pour nous. En outre, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant les premiers mois de la pandémie, ce qu'on lit dans les articles qui parlent d'itinérance et de COVID, c'est qu'il y a une grande crainte qu'il y ait des foyers de contagion qui se développent dans la population itinérante, ce qui pourrait mener à propager le virus de façon fulgurante dans la communauté.
Effectivement, c'était un peu la même crainte partout dans le monde. Je pense entre autres en Angleterre où le mot d'ordre en itinérance, c'était « get everyone in », donc on laisse personne dans la rue.
Exact. Pour laisser personne dans la rue, il faut que le Québec puisse compter sur les organismes d'hébergement en itinérance. Or, la crise sanitaire les touche aussi. D'autant plus qu'avant même la pandémie, un grand nombre de ces organismes vivaient déjà dans une situation de grande précarité. Ça fait longtemps que ces organismes sont fragilisés par un sous-financement qui est chronique. Ils sont tenus à bout de bras par un petit nombre d'intervenants et de bénévoles. Plusieurs occupent aussi des locaux très petits dans lesquels ils accueillaient et aidaient au quotidien un grand nombre de personnes.
Eh bien, j'imagine que si on ajoute à ça une pandémie, puis la mise en place d'une série de mesures sanitaires, le contexte a été difficile pour ces organismes-là.
Tout à fait. En début de pandémie, c'était un réel casse-tête là, pour eux de continuer à offrir des services tout en respectant les mesures sanitaires. Il y en a qui ont fermé, il y en a d'autres qui ont diminué leur capacité d'accueil. Entre autres, là, il y avait des organismes qui, n'ayant pas de chambre privée, devaient offrir moins de places d'hébergement. Tout ça, donc, a amené une diminution importante au Québec du nombre de places d'hébergement disponibles. Et c'est un peu ce qui a amené aussi l'urgence d'ouvrir des nouveaux lieux d'hébergement. En début de pandémie, même si ce n'était pas tout à fait dit comme ça, il n'en reste pas moins qu'un des objectifs avec l'ouverture des refuges, c'était d'éviter la propagation communautaire du virus. Il ne fallait pas que les personnes itinérantes traînent dans les rues. Donc, pour les refuges, ça signifiait qu'ils devaient être prêts à accueillir tout le monde qui leur était référé ou qui se présentait à la porte. C'est donc dans ce contexte-là que le réseau, les organismes communautaires et dans certains cas même les municipalités ont tenté de mettre en commun leurs ressources pour créer des refuges. Cette mise en commun des ressources a d'ailleurs été un défi important lors de la mise sur pied des refuges, mais ça, on pourrait y revenir plus tard. Pour l'instant, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'impact qu'a eu le contexte plus large de la mise en place de ces refuges. Donc, par contexte plus large, je veux dire la pandémie, les mesures sanitaires, le chaos, les incertitudes. Et ce que ça a fait, ça a amené à voir un peu ces lieux d'hébergement comme étant inscrits dans une mission d'urgence et dans une logique sanitaire. Et cette façon de voir les refuges a impliqué qu'on est resté dans la réponse temporaire, dans le « ça va bien aller » dans quelques mois. Donc, Les refuges, c'était de mettre quelque chose en place en attendant que la pandémie passe. D'ailleurs, en entrevue, quelqu'un m'avait dit « On a dû se revirer de bord sur un 10 cents, il a fallu improviser, prendre les locaux qui étaient disponibles puis faire avec, même s'il n'y avait pas de douche, même s'il fallait mettre des lits de camp, même si le refuge était installé dans un sous-sol d'église, dans un aréna, un gymnase, d'école, motel, c'était tout sauf la rue. »
Dans un contexte comme ça, j'imagine que ces refuges-là ont rencontré bien des défis. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Des enjeux et des défis, il y en a eu. Je dirais que le financement non récurrent des refuges, ça a été un de leurs défis majeurs. De la première à la troisième vague, les refuges ont eu à vivoter au gré des vagues de financement COVID, avec tout ce que ça signifie pour eux comme incertitude. Pour les autres défis, c'est pas simple de savoir par où commencer. Comme je t'ai mentionné tout à l'heure, toute la question de trouver des locaux pour y installer des refuges a été un défi majeur. Les locaux qui étaient disponibles, donc, n'étaient pas toujours adéquats. C'était jamais des locaux prévus pour offrir de l'hébergement. Les lieux étaient donc des aménagements de fortune, comme je le disais tantôt, parfois même sans accès à des douches sur place, avec des lits de camp séparés par des rideaux. On peut imaginer toute la question de l'absence d'intimité pour les personnes qui étaient hébergées. Dans certaines régions aussi, on nous a dit que les locaux trouvés pour installer un refuge étaient plus disponibles après quelques semaines ou quelques mois. Donc, les organismes partenaires devaient recommencer au bout de quelques semaines ou quelques mois et remettre sur pied un autre refuge. Un en particulier, dont je me souviens, qui a dû changer 3 fois de local en 1 an, quasiment à chaque vague de COVID.
Tout ça, ça me fait penser que les équipes de ces refuges-là ont dû s'organiser vraiment rapidement dans un contexte de grande incertitude. Là, ça n'a pas dû être simple.
Ben, en fait, la constitution des équipes et l'organisation du travail, ça a été en soi des défis de taille. Je pense à des refuges mis sur pied en partenariat entre le réseau et le communautaire. Par exemple, partenariat entre un organisme en sécurité alimentaire, un centre d'hébergement, un CIUS et un organisme de travail de rue, qui en très peu de temps, les équipes composées des intervenants de tous ces milieux, qui sont donc de différents horizons, doivent travailler ensemble. Dans ces équipes, ils pouvaient donc avoir des intervenants du réseau qui, eux, habituellement, travaillaient pas nécessairement en itinérance, et qui ont été délestés pour aller travailler dans le refuge, et des intervenants qui provenaient du communautaire, certains qui avaient peut-être une expertise particulière en itinérance, mais d'autres pas nécessairement, et qui ont été sollicités là, pour créer et opérationnaliser un refuge. Le défi dans ce contexte-là, c'est d'arriver à faire travailler ensemble des organismes et des intervenants qui n'ont pas nécessairement les mêmes philosophies d'intervention, même quand ils viennent du communautaire, qui n'ont pas nécessairement les mêmes pratiques et qui ne sont pas tous au même diapason. À ça, on peut aussi ajouter des difficultés associées au fait que dans un même refuge, il pouvait avoir des intervenants dont les salaires et les conditions de travail n'étaient pas nécessairement les mêmes en raison de leur lieu d'ancrage respectif, ainsi qu'au fait qu'il n'y avait pas nécessairement... la même reconnaissance, par exemple, dans un refuge, il y avait certains membres de la même équipe qui étaient considérés comme travailleurs essentiels et donc qui pouvaient compter sur des places en garderie, tandis que d'autres qui venaient du communautaire, ils n'avaient pas droit à cette époque-là, en tout cas.
Au niveau du personnel, j'imagine que la rétention puis la formation des intervenants, ça a aussi été des enjeux importants.
Clairement. Le roulement, la pénurie de personnel, c'était tous des défis. Un autre important aussi pour les refuges, ça a été la difficulté à bien préparer, à bien former leurs ressources humaines à ce que ça implique au quotidien de travailler dans un refuge bosseux. C'était pas prévu pour ces intervenants-là en mars là, 2020. Il n'y avait personne là, qui était en train de les former pour travailler en bosseux. Chacun était un peu dans ses propres pratiques. Donc, pour te donner un exemple, une des personnes interviewées racontait que dans le refuge où elle travaillait, qui devait supposément accueillir entre 20 et 25 personnes, c'était plus souvent 30 et 40 personnes qui étaient accueillies parce qu'à certains moments, pendant la pandémie, tous les refuges dépassaient leur capacité d'accueil. Donc, ces 30-40 personnes vivaient des situations très différentes. Certains, c'était une problématique en santé mentale. Pour d'autres, c'était la consommation. Certains, alors que certains avaient besoin, en fait, d'un hébergement parce qu'il n'y avait plus de job ou de logement. Ils arrivaient donc en refuge pour la première fois de leur vie dans le champ, dans le monde de l'itinérance, si tu veux. Donc, les refuges ont aussi accueilli des personnes qui avaient des déficiences intellectuelles, qui s'étaient référées soit par des urgences d'hôpitaux, par exemple, des personnes âgées en perte d'autonomie, aussi référées par l'hôpital, parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits où les envoyer. Donc, on peut imaginer à quel point la cohabitation de toutes ces personnes, c'était pas simple et même parfois carrément impossible. Une intervenante racontait que dans une même soirée, il pouvait avoir 35 personnes dans le refuge, 12 dans la cour qui étaient fortement intoxiquées. Il pouvait en avoir 2 en crise psychotique, puis 5 autres qui avaient un peu peur de le voisin de chambre. À un moment donné, il fallait appeler la police à plusieurs fois dans la même nuit parce que les intervenants étaient dépassés. On peut imaginer là, que 2-3 intervenants sur le plancher qui doivent faire face à toutes ces situations, ils vont finir par s'épuiser malgré toute leur bonne volonté. Donc, c'est pas simple de travailler en plus dans des locaux qui n'étaient pas adéquats et de faire face jour après jour à des situations complexes dans un contexte où la gestion des crises était devenue non pas l'exception, mais le pain quotidien des intervenants. Je te dirais que malgré tout ça, les intervenants ont vraiment continué à tenter de créer des liens avec les personnes, à tenter de les soutenir, mais comme disait une d'entre elles, avec beaucoup moins de billes dans son sac pour aider les gens. Il faut le répéter, là, tout ça se passait dans un contexte où les pistes de solutions avaient diminué en raison de la pandémie. Crise de logement, marché de l'emploi qui était à l'arrêt, les organismes partenaires avec qui les gens étaient habitués de coopérer avaient diminué leur activité ou avaient carrément fermé. Et sans compter que pour les personnes en situation d'itinérance elles-mêmes, leur repère habituel avait complètement été transformé. Donc, c'est un travail essoufflant, épuisant. Et c'est pas étonnant que tout ce qui entoure le recrutement, la rétention, la formation des ressources humaines ait été un défi immense pour les refuges. Et d'ailleurs, ça continue de l'être.
T'en as parlé un petit peu. J'imagine aussi que la consommation de substances, ça fait partie du vécu quotidien de plusieurs personnes qui fréquentent les refuges. Qu'est-ce que ça amène comme enjeu pour les équipes?
C'est un gros enjeu pour les équipes. La plupart des refuges se sont questionnés tout le long de la pandémie là-dessus. Certains avaient des politiques de non-consommation à l'intérieur du refuge, mais aussi une grande tolérance à héberger recevoir les personnes intoxiquées. Et c'est toujours avec l'idée, c'est en notant que leur comportement ne le dérange pas au sens de nous embêter, mais que ça finisse pas en crise et en violence, d'une certaine façon. Un des exemples qu'on m'avait raconté, c'était pour montrer d'une certaine façon la tolérance, c'était de dire, bon, on avait une personne qui était tellement intoxiquée, à chaque fois qu'elle venait, elle faisait ses besoins 2-3 fois dans son lit pendant la même nuit. On ne l'aurait pas mis dehors à cause de ça, il n'y avait pas de violence, on changeait de lit. Donc, ça montre vraiment l'intention des refuges d'avoir beaucoup de tolérance. Certains organismes ont même envisagé d'offrir, si tu veux, un lieu supervisé pour consommer à l'intérieur. Mais c'est pas simple d'organiser un lieu comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'autorisations à obtenir. Et déjà que les équipes étaient essoufflées, vraiment, il y avait un manque de temps et d'énergie pour développer quelque chose de plus. La plupart des refuges ont aussi mentionné que même si en général, donc, la consommation n'était pas permise à l'intérieur ou sur leur terrain, pendant la pandémie, ils ont fait des petites ouvertures, là, entre autres, là, pendant les différentes vagues de confinement, les couvre-feux, il y avait comme politique temporaire de plus grande tolérance. Par exemple, dans un refuge, les personnes pouvaient sortir, aller consommer sur le terrain au coin de la rue, revenir à l'intérieur pour vivre leur buzz. Mais ça aussi, il y a eu des dommages collatéraux. Les citoyens les voyaient, portaient plainte à la police. Donc, tu peux imaginer ce que ça a apporté comme difficulté pour les intervenants et les équipes des refuges.
Ton dernier commentaire me fait penser à ce que plusieurs acteurs du champ de l'itinérance nous ont mentionné pendant la recherche en lien avec les enjeux de cohabitation. Est-ce que tu pourrais résumer c'est quoi les principaux enjeux relatifs à ça?
Bien sûr, l'enjeu dont on vient de parler avec les rapports entre les personnes en situation d'itinérance et les citoyens, c'est un enjeu important. Le phénomène du pas dans ma cour a été très présent pendant la pandémie. Malgré qu'il y a eu au début des élans de solidarité envers les personnes en situation d'itinérance, on a vu aussi au fur et à mesure que le temps passait, là, comme les ressources étaient souvent concentrées dans un même secteur, que ça amenait à des enjeux de cohabitation avec les citoyens. Il y a eu des éléments là-dedans qui viennent aussi de la façon dont on a organisé les services. Donc, d'avoir un service pour la nuit où les gens venaient manger le souper, dormir, s'en aller le lendemain matin pour se rendre à la ressource, l'autre côté de la rue qui les offrait le déjeuner, et ensuite traverser de l'autre côté de la rue pour aller prendre une douche. Les gens étaient vraiment restés dans le même coin. Clairement, ça veut dire que ça a commencé aussi à... C'est des citoyens qui n'étaient pas toujours habitués de voir autant de personnes itinérantes à la même place en même temps. Donc, il y a eu vraiment des difficultés de cohabitation qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Ça, je pourrais t'en parler longtemps, mais c'est ça, ça perdure. Il y avait aussi le fait que les personnes allaient d'une ressource à l'autre. Ça apportait aussi des lots de défis au niveau de la collaboration entre les organismes eux-mêmes, pas juste avec les citoyens. La cohabitation entre les personnes elles-mêmes, dont on a parlé tantôt, parce que les gens sont pas tous habitués non plus. C'est pas parce qu'on se retrouve à la rue qu'on est à l'aise de se retrouver avec quelqu'un qui s'injecte des drogues à côté de nous, puis un autre qui est en crise dehors. Donc, ça aussi, il y avait des enjeux de cohabitation. Comme je mentionnais, le fait qu'il y a eu vraiment des refuges qui sont installés dans des municipalités ou des quartiers où il n'y avait pas avant d'organismes en itinérance, ça a aussi donné lieu à des difficultés de cohabitation.
Comme tu dis, j'imagine qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps des enjeux de cohabitation. Mais comme le temps passe, ben, j'aimerais ça t'entendre sur des pistes de réflexion qui restent à creuser.
Peut-être qu'il faudrait creuser les bons coups, mentionner les bons coups, parce que le positif, il y en a eu beaucoup. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a plus parlé des défis. Mais un des bons coups qui ressort, qui nous a été nommé souvent, puis qui a eu aussi ses limites par ailleurs, là, mais c'est toute la notion des partenariats entre des acteurs qui n'avaient pas nécessairement des liens entre eux avant la pandémie, même si certains pouvaient en avoir. Mais les collaborations donc entre les acteurs du réseau, du communautaire, des villes, tout ça a créé des liens importants. Le fait d'avoir des intervenants du réseau du communautaire qui travaillaient sur un même plancher, dans certains cas, ça a facilité l'accès aux services du réseau pour les personnes en situation d'itinérance. Bref, il y a vraiment eu une création de liens et maintenant, il va falloir voir qu'est-ce qui va résister au temps. Mais ça, je pense que c'est un exemple là, d'un des bons coups qu'il faudrait peut-être continuer à réfléchir. Qu'est-ce que ça pourrait être à une pratique qui pourrait perdurer? L'autre aspect aussi, c'est certain qu'en créant les refuges dans certaines municipalités, par exemple, ou certains quartiers, les gens qui travaillent dans les refuges nous ont dit, écoute, il y a une reconnaissance tout d'un coup que le phénomène de l'itinérance, c'était avant vu comme un phénomène soit juste montréalais ou de grands centres urbains, ou même à Montréal, c'est un phénomène juste des quartiers centraux. Mais là, la présence des refuges aussi a donné une certaine visibilité au phénomène de l'itinérance dans certains arrondissements à Montréal et dans certaines régions ou municipalités au Québec. Donc ça aussi, je pense que c'est important à considérer. On veut pas appeler ça un impact positif de la pandémie, mais c'est quand même un élément à réfléchir pour plus tard. Qu'est-ce que ça va donner? L'autre aspect que je voudrais aussi souligner, et peut-être revenir là-dessus, je me répète, et j'en suis désolée, mais les refuges ont été pensés dans l'urgence. De la première à la troisième vague, à la quatrième vague, on est toujours resté dans l'idée que les refuges étaient là pour répondre à un problème immédiat, temporaire et à la limite sanitaire. Donc, leur développement s'est pas fait dans une logique où les acteurs du communautaire, des villes, du réseau, se seraient assis ensemble autour d'un café en se disant « bon, on va réfléchir à comment on va développer des refuges Bas-Seuil ». En fait, les refuges, ils ont même pas été développés en se nommant eux-mêmes refuges Bas-Seuil. Là, c'est une, pour plusieurs, on le voyait dans les entrevues, ça venait par après de se rendre compte qu'on était un refuge Bas-Seuil. Donc, ces refuges-là ont accueilli des personnes dont les situations étaient ultra complexes, souvent des personnes qui ne voulaient pas être là parce que dans leur façon de fonctionner dans la société, c'était pas vraiment toujours un choix de se retrouver dans les refuges, sans que les équipes aient été préparées à ça, sans que les locaux soient pensés dans une philosophie bosseuil. Donc, est-ce qu'on a besoin des gros refuges, des petits refuges? Est-ce qu'on doit permettre la consommation sur place ou pas? Est-ce qu'on doit prévoir des lits de dégrisement? De quelles ressources humaines on a besoin, quelle formation, mais aussi quelle aptitude. C'est pas simple de travailler dans le bosseuil, ça demande pas nécessairement les mêmes aptitudes que quand tu es dans un service de réinsertion, c'est pas la même chose. Donc, c'est autant de questions pertinentes à se poser pour l'avenir que l'expérience des refuges nés en temps de pandémie nous laisse. Alors, c'est sûr maintenant que c'est à voir comment on va pouvoir réfléchir ces questions-là.
Bien, merci beaucoup, Guylaine, pour tous ces beaux éléments, cette belle réflexion, cette analyse et ces constats parfois difficiles sur la réalité des refuges bosseuil qui sont nés en temps de pandémie. Je suis convaincue qu'on aura encore l'occasion d'en parler et de réfléchir à ces questions-là avec les acteurs qui sont concernés aussi. Donc, bien, merci à toi.
Écoute, merci, puis je veux juste insister sur tes dernières paroles. Il faut le réfléchir avec les acteurs qui sont concernés. On l'a vu dans nos entrevues, c'est les gens qui travaillent dans les refuges qui déjà détiennent pas mal de clés pour réfléchir le futur.
Tout à fait. Merci, Guylaine.
Merci, Stéphanie. Bye.
Bye-bye.